L'enfant océan, deuxième partie, suite et fin. Récit de Fabien Doutrelot, 14 ans, frère de Yann. À la gare de Bordeaux, on a failli pas se retrouver avec tout ce monde. Heureusement que les autres ont eu la même idée que nous et qu'ils sont allés vers la sortie. C'est là qu'on s'est regroupés. Bordeaux, c'est pas au bord de l'océan. Pas du tout. On croit ça quand on regarde la carte de loin, mais ça trompe. Il y a au moins 50 kilomètres à vol d'oiseau. Pierre a dit, on s'en fout, on n'a qu'à prendre un autre train. Il est gonflé à bloc, Pierre. Comme il s'est bien débrouillé pour les billets et pour la nourriture, il a l'impression qu'il est devenu le chef et que rien lui résistera. On était tous assis par terre à réfléchir, mais lui, il arpentait le pavé devant nous avec l'air de dire, « Qu'est-ce que vous glandez, là? J'y retourne et puis c'est tout. » Mon idée, c'était qu'on se ferait prendre si on recommençait. C'était déjà un miracle qu'on soit ici. Alors, il fallait pas tenter le diable. Je pensais à tout ce chemin parcouru depuis notre départ, au camion qui nous avait emportés dans la nuit, à notre journée sur la route, à notre longue marche le long de la voie ferrée. Pas question de gâcher tout ça. Et puis, pour moi, il y avait un seul chef, et c'était Yann. Je me suis penchée sur le sac et je lui ai parlé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il a hésité un peu. « Les petits sont fatigués ?»« Ça va, ils ont dormi dans le train. »« Ils ont mangé ?»« Oui, ils ont mangé. »« Tu pourras me porter encore avec Rémi ?»« Bien sûr. » Alors, il a souri. Et puis, avec un petit air désolé, il a fait trotter son index et son majeur contre la toile du sac. On marcherait, au moins pour sortir de Bordeaux. Les moyens ont fait la gueule. Déjà qu'ils ont des têtes renfrognées quand tout va bien, mais là c'est le pompon. On s'est remis en route. On a mis plus de 2 heures pour arriver sur la départementale qui va vers l'océan. Il faut dire qu'en ville, la boussole de Yann se détraque un peu et qu'on a fait quelques zigzags. Sans rien demander à personne, Paul a levé le pouce et il a eu un sacré coup de bol. Une fourgonnette s'est arrêtée. Elle ressemblait à celle qui venait autrefois dans notre cour pour nous vendre de l'épicerie. Elle passait le jeudi, je me rappelle. Il y avait de tout dedans. Du manche à balai au dentifrice, en passant par les tapettes à mouches et les fameuses surprises. C'était des cônes en papier de 2 tailles, les grandes et les petites. Je sais toujours pas ce qu'il y avait dans ces surprises. La mère, elle en a jamais acheté, ni des grandes ni des petites. C'est des cochonneries, elle disait. La fourgonnette est venue klaxonner tous les jeudis pendant des années dans notre cour. Et puis un beau jour, on l'a plus vue. C'est normal, la mère prenait jamais rien. Et l'épicier, tout ce qu'il gagnait à faire le détour, c'est que Corniaud venait lui pisser sur ses roues. Un jour, même si je suis trop grand pour ça, même si je suis adulte, j'irai dans un magasin où il y en a et j'en achèterai une de surprise. Et si on me demande « c'est pour vos enfants ?» J'aurai pas honte, je dirai « non, c'est pas pour mes enfants, c'est pour moi. » D'ailleurs, j'en veux pas d'enfants. Je préférerais être au calme un peu plus tard. Je garderai juste Yann à la rigueur, pour voir. « Où allez-vous ?» le chauffeur a demandé. Paul a répondu qu'on allait à l'océan. « Eh bien alors, montez derrière !» Il est descendu pour nous ouvrir la porte. Je savais pas qu'on pouvait être aussi gros. Il était obligé d'écarter les jambes pour que les cuisses ne frottent pas trop. Récit d'Émile Ducrot, 50 ans, épicier. « Oui, c'est moi qui les ai conduits là-bas, les 6 frères d'Outrelot. Le 7e aussi, sans doute, le petit, mais je l'ai pas vu. Il le cachait dans ce fameux sac. Je les ai tous fourrés derrière en leur disant de toucher à rien. Mais ils n'avaient pas l'air bien méchants. Ils se sont assis par terre, au milieu des marchandises, et ils ont plus bougé. Un des deux à la casquette est venu devant, avec moi. Mais il n'était pas causant. « Comme ça, vous allez à l'océan ?»« Oui. » « Mais c'est où que vous habitez ? À Bordeaux ?»« Oui. » Comme je ne suis pas causant non plus, on en est resté là pendant un bon moment, le temps de me rendre compte qu'il sentait pas la rose, le garçon. Mais je lui en ai pas voulu pour ça. Moi aussi, j'ai une tendance à puer des pieds. Alors, on était un peu entre connaisseurs. Dans le vide-poche, j'ai une carte du coin. Il l'a prise et il l'a étudiée de près. Et puis, d'un seul coup, il a pointé son doigt dessus. « C'est là qu'on va !» Il montrait la route qui longe l'océan. Et son doigt était pile sur la maison de l'autre fou, là. Mais moi, j'en savais rien que c'était un fou, ce type. Je l'ai su que plus tard. Il n'y avait pas écrit « fou » sur la maison. Faudrait arrêter de m'emmerder maintenant avec cette histoire. C'était un mercredi, je me suis dit, voilà des gosses qui veulent aller voir la mer. C'est pas une fugue, ça, c'est une balade, c'est tout. Je les ai déposés juste devant la maison. Je peux pas dire le contraire. C'était des braves petits, pas des vandales. Comme ils avaient touché à rien derrière, je leur ai même dit, vous aimez les bananes, les gars? Eh bien, je leur en ai donné une à chacun. Après, les flics m'ont reproché, en plus que j'avais pas le droit de transporter des passagers dans mon fourgon. Je le sais bien que j'ai pas le droit. Je veux plus qu'on me parle de tout ça. À l'épicerie, quand les pipelettes essayent de me relancer, je ne tombe plus dans le panneau. Je les regarde dans les yeux et je leur dis tranquillement. Ce sera tôt pour la dame? Ça leur ferme le caquet. Récit de Thierry Villard, 28 ans, chômeur. Mon boulot, c'est de jeter un coup d'œil à la villa de Monsieur Fèvre, deux ou trois fois par semaine. Je vérifie que tout est en ordre, comme il dit. C'est son expression favorite d'ailleurs. Il faut que les choses soient en ordre. À chaque fin de mois, il me donne 100 francs ou 150 selon son humeur. C'est toujours ça de prix. Ça me paye mes cigarettes et puis j'y passe de toute façon devant sa saleté de baraque. Alors autant que ça me rapporte quelque chose. Tous les soirs, je cours sur la plage. 10 kilomètres, 12, ça dépend. J'enfile mon vieux survêt, je mets un bonnet si c'est l'hiver et je galope. Comme je suis au chômage, j'essaie de m'y tenir. Ça me nettoie la tête, ça me défoule. Sinon, j'ai trop la rage. Il n'a pas la rage, lui, Monsieur Fèvre. Je ne l'ai jamais vu en colère, ni même irrité. Il parle tellement bas qu'on en rate la moitié, ce qui vous oblige à faire silence. Et ça doit lui plaire, ça, qu'on l'écoute en silence. Pour vous saluer, il vous tend une main molle, incroyablement douce, toute fragile, et il ne donne aucune pression avec les doigts. C'est si désagréable qu'on a envie de le secouer, de lui broyer les phalanges. Il fait penser à un poisson, Monsieur Fèvre, sauf que les poissons doivent bien éprouver des émotions de temps en temps, et que les poissons ne font pas de politique. Je vous fais la plus absolue confiance, Thierry. Pourquoi est-ce que ça me glace quand il me dit ça? Je devrais être flattée, au contraire. La première fois, c'était au début de l'automne, en me tendant les clés. Je vous fais la plus absolue confiance, Thierry. Et ses yeux serrés ont ajouté en silence, ne t'avise surtout pas de me décevoir, petit, rien du tout que tu es. Une villa comme la sienne, il y en a des centaines ici. Les proprios sont des rupins qui les habitent 2 mois de l'année et qui, le reste du temps, ont la trouille qu'on les visite. Celle de Fèvre est plutôt sinistre, dans les gris, et quand tous les volets métalliques sont baissés, elle est aussi gaie qu'un corbillard, ce qui lui donne un air de ressemblance avec son propriétaire, d'ailleurs. Il y vient l'été avec sa femme et ses filles. Elles sont une tripotée, ces filles, plus de 5 en tout cas, toutes blondes et pétantes de santé. Il y a des jumelles dans le tas. La route passe juste devant la maison. De l'autre côté, c'est la plage et l'océan. Je n'y suis jamais entrée. Je me contente de faire le tour, de constater que tout est en ordre et je reprends ma course. J'ai repéré les gosses vers 18 h. Facile. Au mois de novembre, il n'y a pas un chat ici. Et les 6 gosses alignées sur la plage, ça se remarque. J'ai pensé que c'était des manouches à cause de leurs fringues et puis parce qu'il y a un campement pas loin. Ils étaient assis sur le sable et ils regardaient vers le large. Quand je suis arrivée à leur hauteur, ils se sont tous retournés. « Salut, j'ai lancé !» Ils ont tous répondu ensemble « Salut !» Quand je suis passée dans l'autre champ, dans l'autre sens, une demi-heure plus tard, ils n'étaient plus là. L'océan virait au noir, la nuit était proche. Par habitude, j'ai jeté un coup d'œil vers la villa. Une silhouette furtive disparaissait à l'angle. « Tiens, tiens !» Au lieu d'y aller tout droit, j'ai fait un assez grand détour et je me suis cachée derrière la villa voisine pour observer. Les 6 petits manouches de la plage étaient là et ils jouaient un drôle de jeu, si on considère bien sûr que jeter un gosse sur un toit d'une maison est un jeu. Car c'est ce qu'ils faisaient. J'ai mis une bonne minute avant d'en croire mes yeux. Ce n'était pas un chat ni un chien, c'était un gosse, un vrai. Les 2 plus grands l'ont pris par les jambes et par les bras, l'ont balancé 3 ou 4 fois, puis l'ont lancé comme on lancerait un sac de pommes de terre. Le petit est monté dans les airs et il a atterri au bord du toit. Il a essayé de s'agripper au chéneau, mais il n'y est pas parvenu et il est tombé. Un des enfants a plongé et la recueillit dans ses bras, comme au rugby. Aucun ne riait. Ça m'a frappé, ça. Ils se sont concertés un instant, et ils ont fait une nouvelle tentative. Mais elle s'est déroulée exactement comme la première. Le gosse a glissé, et il est retombé. Cette fois, ils se sont querellés. Sans doute que le petit avait mal. Deux autres lanceurs s'y sont mis. Ils avaient des casquettes à oreilles, ceux-là. Ils ont propulsé le môme avec une énergie incroyable. J'ai failli crier pour les empêcher, mais il était trop tard. Il est monté si haut qu'il a presque atteint le milieu du toit. Il s'y est immédiatement accroché, comme un gros insecte. Puis, il a rampé jusqu'à la cheminée. Il y est entré. Il est entré par la cheminée, oui. 2 minutes se sont écoulées et la porte à bascule du garage s'est ouverte. Ils s'y sont tous engouffrés. La porte s'est refermée, il n'y avait plus rien à voir. J'avais regardé fasciné sans rien faire. J'aurais dû intervenir depuis longtemps, bien sûr. Seulement, il se trouve que je ne suis pas au rôle, moi. Et puis, je ne suis pas payé 100 francs par mois pour me faire trouer le ventre. Ces gars-là ont des couteaux, c'est connu. Mon boulot, c'est de prévenir Fèvre si quelque chose n'est pas en ordre. C'est tout. Alors, j'ai couru jusque chez moi et je l'ai appelé à son domicile de Bordeaux. « Monsieur Fèvre ?»« Lui-même. »« C'est Thierry à l'appareil. Je vous dérange pas ?» Je lui ai raconté exactement ce que j'avais vu. Il a écouté en silence. Le silence de Fèvre, c'est quelque chose, croyez-moi. Il n'a posé qu'une seule question. « Ce sont des manouches ?» Je n'étais pas sûre à 100%, mais j'ai dit que oui, que c'était certainement les manouches. Alors, il a répondu qu'il arrivait, que je devais seulement surveiller la villa au cas où il ressortirait. Il ferait vite et me récompenserait pour ça. Il ne fallait pas alerter la police. J'ai mis 2 anoraks, l'un sur l'autre, et je suis retournée à la villa. Rien n'avait bougé. J'ai attendu assis par terre, près de la route. Fèvre est arrivé moins d'une demi-heure plus tard. Sans doute qu'il n'avait pas respecté toutes les limitations de vitesse. Il a arrêté la voiture très loin, pour ne pas faire de bruit, et il s'est avancé à pied vers moi. « Ils sont encore dedans ?»« Je pense que oui. »« Aide-moi, s'il te plaît, tu es bricoleur. » Il y avait une sorte de jubilation dans sa voix. Il me tutoyait tout à coup. Ça m'a fait peur. On a sorti de son coffre une torche, une perceuse électrique sans fil et une boîte à outils. « Viens. » On a marché jusqu'au garage. « Tu saurais fixer la porte au sol pour qu'on ne puisse plus l'ouvrir du tout ?» Je l'ai regardé, incrédule. « Vous voulez... »« Tu saurais faire ?» J'ai secoué la tête pour dire que oui, et je m'y suis mis. Pendant ce temps, Fèvre est entré dans le garage quelques secondes, et il en est ressorti avec une poignée de fusibles. J'ai fait un trou dans le béton au sol, et j'y ai vissé un crochet assez fort. J'en ai fait un autre dans le bas de la porte métallique, et j'y ai mis un crochet aussi. J'ai rallié les deux fils, les deux, avec du fil de fer. C'était du travail de salopard, mais c'était solide. Fèvre a essayé de soulever la porte pour vérifier. Ça tenait bon. Il m'a fait un clin d'œil et m'a tendu 4 billets de 500 francs. « Tiens, pour la peine, tu ne diras rien à personne. Hein. Je reviens dans une semaine et je te donnerai la même chose. D'ici là, ne t'occupe plus de rien. Je te fais la plus absolue confiance, Thierry. Je te dépose ?» J'ai dit que non, que j'habitais tout près. Il est reparti, j'ai mis les billets dans ma poche et j'ai marché jusque chez moi. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée. L'idée m'est venue que je ne faisais pas grand-chose de bien dans ma vie, mais que c'était normal après tout, que je ne méritais sans doute pas davantage. Et je me suis foutue à chialer. Récit de Gilles Fèvre, 52 ans, industriel. On m'accuse de cruauté, mais je crois rêver. Ces personnes sont entrées chez moi. Or, voyez-vous, ça ne vous semblera peut-être qu'un point de détail, mais il se trouve que je ne les y avais pas conviés. D'autres que moi en auraient pris ombrage et se seraient fâchés. Moi non. J'ai tenu un raisonnement de bon sens, voyez-vous. Ces jeunes gens désiraient entrer? Parfait. Puisque tel était leur souhait, j'aurais dû mauvaise grâce à les contrarier, n'est-ce pas? Je n'ai donc rien entrepris pour les faire sortir. Bien au contraire, j'ai même veillé à ce qu'ils profitent longuement de leur séjour. Tout de même, me dit-on, ils y sont restés 3 jours sans manger. Il n'y avait pas de lumière et il y faisait froid. Soit, je vous l'accorde, eh bien, en signe de repentance, Je dispense ces personnes du paiement de tout loyer. C'est cadeau. Et on prétend que je manque de cœur. Je pourrais comparaître devant un tribunal, me dit-on encore. Il faudra sans doute que je fasse amende honorable. Peut-être serai-je même condamné. Après tout, ce ne sera que justice. Rendez-vous compte. Des individus s'introduisent chez moi, dégradent le mobilier, souillent les tapis. C'est impardonnable. Il faudrait que je sois puni, n'est-ce pas? Quant à eux, ils restent bien sûr libres de recommencer à leur guise. Peut-être sont-ils d'ailleurs en train de le faire au moment où je vous parle. Chez vous, si ça se trouve, pourquoi pas? Il en va ainsi de notre pays. Il est plus honorable de voler son prochain et de manger du hérisson comme ces gens-là que de gagner honnêtement sa vie. C'est ainsi. Mais cela changera peut-être plus tôt qu'on ne le pense. En tout cas, nous y travaillons et nous sommes nombreux. Récit de Rémy d'Outrelot, 14 ans, frère de Yann. Quand Yann a fait basculer la porte du garage, je me suis précipité sur lui et je l'ai pris dans mes bras. Bravo, Yann, bravo! Il était noir de suie, écorché au coude et au genou. Il nous a mimé comment il était descendu dans le conduit de la cheminée, à la façon des alpinistes. On a vite refermé la porte et on est parti à la recherche du disjoncteur pour faire la lumière. C'est Paul qui l'a trouvé. Pour entrer dans le salon, on a enlevé nos chaussures, on n'osait pas parler. Le sol était couvert d'un immense tapis comme on en voit dans les catalogues de réclame. Au milieu, une table basse en verre et autour, des fauteuils en cuir où on aurait pu s'asseoir à trois. On s'est suivi en troupeau d'une pièce à l'autre. Il y avait au moins cinq chambres, toutes bien rangées et bien propres. « C'est des chambres de filles », a dit Pierre. Il avait raison, ça se voyait, aux petits objets alignés sur les étagères et aux photos de vedettes accrochées au mur. Il n'y a que des filles pour faire ça. Un peu plus tard, dans le salon, on en a eu la preuve. Elles étaient toutes dans un cadre, les sept filles avec leurs parents. Drôlement jolies, il fallait le reconnaître. Toutes blondes et gracieuses, comme leur mère d'ailleurs. Le père aussi souriait de bon cœur sur la photo. Il avait l'air d'un brave type. On s'est dit qu'on n'abîmerait rien et qu'on laisserait même un mot d'excuse et de remerciement quand on repartirait le lendemain. Dans la cuisine, le frigo était vide et entrouvert. Rien non plus dans les placards, sauf un paquet de biscottes qu'on s'est partagé aussitôt. Pour la nuit, on a pris des couvertures dans les lits des filles et on les a mises par terre sur le tapis du salon. Pas la peine de salir les chambres. On dormirait tous là et en plus, on se tiendrait chaud. « Il n'y a pas de télé ?» a demandé Victor. Non, il n'y en avait pas. Par contre, Paul a réussi à mettre la chaîne Wi-Fi en marche. On l'a engueulé, mais quand il a une idée en tête, la musique était tellement triste qu'on a fini par l'arrêter. Et pourtant, elle me plaisait un peu quand même, c'était bizarre. J'ai regardé sur le boîtier du CD, ça s'appelait « Suite pour violoncelle » et le musicien, c'était Bach. Il y a des gens qui écoutent de drôles de trucs. « Et si on ouvrait les volets ?» a demandé Max. « Peut-être qu'on verrait l'océan d'ici. » La lumière s'est éteinte à ce moment-là. Et dans les secondes qui ont suivi, on a entendu le bruit de la perceuse électrique. Récit de Pierre. Si on avait une montre, on saurait si c'est le jour ou la nuit. Dans le noir, c'est tout pareil. Les petits arrêtent pas de tousser. On a beau leur mettre dessus toutes les couvertures de la maison, ils toussent encore. Avec Paul, de temps en temps, on va au garage. On fout des grands coups de pied contre la porte et on jure tout ce qu'on peut. Mais ça ne sert à rien. Enfin, ça soulage. À force de rien voir, on est devenu comme les aveugles. On tâte avec les mains. Récit de Paul. Le plus dur à penser, c'est qu'il y a l'océan, juste devant, là, à 200 mètres, et qu'on ne peut pas regarder. On est comme des sardines dans leur boîte, impossible d'ouvrir les volets à cause qu'il n'y a plus d'électricité, et impossible d'ouvrir la porte du garage. Pourtant, on y a cogné dessus avec Pierre. Je m'en suis bousillé le gros orteil du pied gauche. Au bord de l'océan, c'était le plus beau moment de ma vie. On est resté assis à regarder. À mesure que la nuit tombait, l'eau prenait une couleur comme de l'acier. On se sentait tout petit, mais ça nous protégeait aussi. Et puis ça faisait beaucoup de bruit. Je ne sais pas décrire, moi. Il n'y avait personne. Juste un type, avec un bonnet enfoncé sur la tête, qui est passé dans notre dos en courant. Il nous a dit « Salut !» et on a répondu pareil. Moi, je m'en fais pas. Je sais qu'on sortira d'ici. Je ne sais pas comment, mais on sortira. Récit de Rémy. Au milieu d'une nuit, est-ce que c'était la nuit d'ailleurs? Victor a dit, dans un grand silence et du tout petite voix, « C'est notre anniversaire. » C'était vrai, Max et lui avaient 12 ans ces jours-ci. Alors nous, les quatre grands, on les a embrassés, on a commencé à chanter la chanson, mais on était trop tristes et on n'est pas allés jusqu'au bout. On a tous très soif, c'est le pire. Récit de Max. Victor et moi, on reste presque tout le temps dans les couvertures, parce qu'on a pris froid. Pour passer le temps, au début, on jouait aux devinettes avec les animaux. Maintenant, on n'y joue plus. On voudrait rentrer à la maison. En toussant très fort, Victor a vomi sur le tapis et il a pleuré. On va me gronder. Fabien a dit que c'était pas grave, qu'il fallait pas pleurer pour ça. Récit de Victor. Max et moi, on a de la fièvre et il faut qu'on reste sous les couvertures. J'ai vomi sur le tapis, mais c'est pas grave. Je vais pas pleurer pour ça. Je fais des rêves bizarres. On marche sur la voie ferrée et c'est le père qui nous conduit. Allez, il nous dit, on va à l'océan. Vous connaissez la route? Et il rigole. J'aime pas ce rêve. Récit de Rémi. Paul a trouvé un briquet dans le tiroir, mais la flamme est toute petite et on se brûle vite les doigts. Après, on a regardé la photo des sept filles et leurs parents. Ils gardent le sourire, eux. De rage, j'ai jeté le cadre de toutes mes forces et je crois que j'ai cassé une lampe. Récit de Pierre. Ça m'est venu d'un coup. Si on peut pas se chauffer avec les radiateurs, il reste la cheminée. On n'a qu'à faire du feu. J'ai dit mon idée à Paul et il a été d'accord tout de suite. Pour le bois, on n'avait que l'embarras du choix avec tous les meubles. On est allé dans une des chambres et on a dépiauté un lit. Pas facile quand on n'y voit rien. On n'a pas réussi à casser les planches, mais on n'aurait qu'à les avancer petit à petit dans le feu. Comme il n'y avait pas de journaux pour allumer, on a déchiré des pages au hasard dans un grand livre. Notre feu, il n'a jamais pris. Par contre, ça puait drôlement et pas moyen d'ouvrir pour aérer. Récit de Fabien. Je savais plus si on était là depuis 2 jours ou depuis une semaine. Tout se confondait. Il y a un moment où plus personne bougeait, je me rappelle. Et pour la première fois, j'ai pensé qu'on allait peut-être mourir ici tous ensemble. Est-ce que ça ferait mal? Ou bien est-ce qu'on s'endormirait tranquillement? Qui partirait le premier, le dernier? Je me posais ces terribles questions quand Yann est venu me gratter le bras. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé. Il a pris mes deux mains et il a mis dedans ce qu'on cherchait depuis le début. Depuis la toute première heure, on s'y était tous mis. On avait fouillé en vain toutes les pièces, les moindres recoins, jusque sous l'évier de la cuisine. Et j'avais fini par dire. Arrêtez, c'est pas la peine, il n'y en a pas, c'est tout. Un téléphone. J'ai pris le petit briquet, j'ai allumé tout près de son visage et je lui ai demandé. Où as-tu trouvé ça? Dans un carton sur l'armoire dans la chambre des parents. On est sauvés alors? Oui, vous êtes sauvés. Le briquet s'est éteint. J'ai réussi à le rallumer une dernière fois. Le visage souriant de Yann a dansé un instant dans la lueur de la flamme, puis a disparu dans le noir. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mais je ne le savais pas. Depuis, quand je pense à lui, c'est cette image que je vois, un visage souriant qui danse dans une flamme et qui me dit « Vous êtes sauvés ». Il restait encore à trouver la prise, et j'aurais jamais cru que ce soit aussi difficile. Au début, on a cherché avec frénésie, tous à quatre pattes, même les petits. On s'est découragé, sauf Paul, qui a dit « Elle est derrière un meuble, certainement ». Alors on a déplacé tous les meubles qui se trouvaient contre les murs. On suait, on soufflait, on sentait mauvais, on se bousculait dans le noir, on était comme des animaux. Finalement, il n'est plus resté qu'un énorme coffre dans l'entrée. On a rassemblé nos dernières forces et on l'a poussé. Paul a suivi la plainte avec ses doigts. Je l'ai, il a dit. La prise, je l'ai. Il avait même plus le courage de crier. Rémi est parti chercher le téléphone dans le salon et on a réussi à le brancher. On a tous retenu notre souffle. Dans le silence, la tonalité était toute fragile, mais c'est comme si les 10 fenêtres de la maison s'étaient ouvertes à la fois, comme si l'océan s'y était engouffré. Qui on appelle? A demandé Pierre, une fois qu'on a eu retrouvé notre calme. Et la question méritait d'être posée. La police? Ils nous ramèneraient chez nous. Un numéro au hasard? Qu'est-ce qu'on dirait? On ne saurait même pas dire où on est. Une maison au bord de l'océan? Elles se ressemblent toutes. Et puis, comment composer un numéro sur un cadran quand on n'y voit rien du tout? Le silence est retombé. Et dans le silence, on a soudain entendu le tip-tip-tip des touches du téléphone. J'ai tendu le bras et cherché à tâtons. Ma main a trouvé celle de Yann. C'est lui qui composait un numéro dans le noir le plus total. Au 10e type, il a serré très fort mon poignet et il a mis l'écouteur dans ma main. Je l'ai porté à mon oreille, au bout du fil. La sonnerie a retenti 2 fois seulement et j'ai entendu la voix de notre mère. « Allô, qui c'est ?»« C'est nous », j'ai dit en pleurant, « c'est nous ». Tous les autres pleuraient aussi, sauf Pierre qui a crié « Vogel » parce qu'il voulait entendre. « C'est où que vous êtes, mes petits ?» elle a dit. Et je l'avais jamais entendu nous appeler comme ça, ces petits. « On est enfermés dans une maison au bord de l'océan. »« Ta gueule !» elle a crié. Mais c'était pas pour nous. C'était pour Cornio qui jappait à côté d'elle. Du coup, on a tous éclaté de rire. « Vous entendez, c'est Cornio, c'est Cornio !» Après, c'est notre père qui nous a parlé. Paul lui a répété qu'on était enfermés, puis il a expliqué la route qu'on avait prise avec le gros épicier, comment était la maison et tout ça. Le père a dit qu'il appelait les gendarmes et qu'il serait là avant le jour, qu'on s'inquiète pas. Lui aussi a dit « mes enfants ». Ça faisait drôle. Avant le jour, on était la nuit alors. On a raccroché le téléphone et on est retourné se coucher sous les couvertures dans le salon parce qu'il faisait rudement froid. On s'est serrés les uns contre les autres et je crois bien qu'on s'est tous endormis. Récit de Xavier Chapuis, 42 ans, adjudant-chef de gendarmerie. L'affaire d'Outrelot? Je vais vous faire un aveu. J'avais mis une croix dessus. Quand un gosse disparaît et qu'on ne le retrouve pas dans les 48 heures, je n'aime pas ça du tout. Et plus le temps passe, plus les chances diminuent. Les jours succèdent aux jours, les semaines aux semaines, et on finit par oublier ou presque, jusqu'à ce qu'un beau matin, un ramasseur de champignons découvre un corps dans un bois. Là, ça faisait 5 jours pleins alors. Et autant de nuits. Bien sûr qu'on a cherché. Les collègues de là-bas ont fait travailler les chiens pour commencer. Mais c'était perdu d'avance à cause de la pluie qui avait effacé toutes les traces. Ensuite, ils ont survolé les environs en hélicoptère, sans résultat. Et pourtant, nom d'une pipe, 7 gosses en vadrouille, ça ne devrait pas passer inaperçu. Ils ont même pris le train, on l'a su plus tard. C'est moi qui ai reçu l'appel radio dans la nuit du samedi au dimanche. Le père d'Outrelot avait eu ses enfants au téléphone. Ils étaient dans une maison au bord de l'océan, tout près d'ici. Il avait décrit la route, je voyais à peu près. Et surtout, il avait indiqué que c'était un gros épicier qui les avait déposés. Quand vous dites « gros épicier ici », les gens vous répondent en cœur « Ducrot ». Alors, on est parti à 4, on est allé réveiller Ducrot et il nous a conduit tout droit à la maison. L'ennui, c'est que la maison en question, je savais très bien à qui elle appartenait. Elle est à Fèvre. Ça vous dit quelque chose? On a essayé de le joindre à son domicile, mais ça ne répondait pas. Alors, Fèvre ou pas Fèvre, on est rentré par la porte du garage qui était curieusement fixée de l'extérieur avec du fil de fer. Vous connaissez le tableau, le radeau de la Méduse? Eh bien, c'est ce qu'on avait dans le faisceau de nos torches. Les gosses étaient dans un état de grande torpeur, complètement hébétés et très affaiblis aussi. Ça sentait mauvais dans la pièce, le vomi et l'urine. Il y faisait un froid de canard. Ils étaient tous couchés par terre, empêtrés dans des couvertures, sales, amaigris. La lumière les aveuglait. Alors, on a détourné nos torches. « Ça va aller, les gars. » Un des gosses le plus grand a demandé « Vous avez à boire ?» Il avait les lèvres gonflées. Je suis allée à la cuisine, mais le robinet était sec. On a aussitôt appelé les ambulances en recommandant d'apporter de l'eau. Je ne sais pas comment on a pu laisser s'échapper le petit. On a manqué de vigilance, bien sûr. Il a dû se glisser par la porte ouverte du garage. Quand on s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. On a fouillé les environs pendant tout le reste de la nuit et pendant toute la journée du lendemain, mètre par mètre, en vain. C'est resté pour moi le plus grand des mystères. S'il avait marché vers la plage et qu'il se soit noyé, l'océan aurait rendu son corps. Et s'il était resté à terre, je vous jure qu'on l'aurait retrouvé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est tout ce que je trouve à dire quand on me demande aujourd'hui. Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est le cirque auquel on a eu droit quand ses frères ont dû monter dans les ambulances et partir sans lui. Les deux grands, ça allait. Ils ont été raisonnables. Je leur ai simplement dit « On le retrouvera. Faites-vous aucun souci. » Ils m'ont fait confiance. Les deux petits, eux, ne se rendaient plus compte de rien. Ils avaient une forte fièvre d'après le toubib. On les a déposés inertes sur la couchette. Ce sont les deux du milieu qui se sont révoltés. Les pauvres gosses ne voulaient rien entendre. Leurs jambes les tenaient à peine, mais ils se sont sauvés sur la plage. Il a fallu les rattraper, les ceinturer. Ils braillaient « Yann, Yann !» et nous bourraient de coups de poing. Quand leur ambulance a démarré, l'un des deux, celui qui m'avait retourné le pouce, tambourinait encore sur la portière arrière en pleurant « Mais il sait pas nager, il sait pas nager !» Récit de Yann d'Outrelot, 10 ans. Je m'appelle Yann d'Outrelot, j'ai 10 ans. Une nuit de novembre, par grande pluie, j'ai entraîné mes 6 frères et nous avons quitté la ferme de nos parents. Nous sommes allés vers l'ouest. Mes frères ont été repris 5 jours plus tard à Bordeaux, qui se trouve au bord de l'océan. Mais moi, non. Cette nuit-là, je ne l'avais pas choisi. Je ne dormais pas. J'étais blottie contre Fabien, je sentais sa respiration tiède et régulière contre ma joue. Malgré la pluie qui battait, j'ai entendu des éclats de voix en bas. D'ordinaire, les parents dormaient la nuit. Ils ne s'engueulaient que le jour. Alors, je suis descendue pour écouter. J'ai fait craquer le lit un peu. Fabien m'a demandé où j'allais, je le lui ai dit. L'oreille collée à la porte de la chambre de nos parents, je n'ai rien appris de nouveau. Qu'il n'avait plus d'argent, qu'elle voulait demander de l'aide, que tout le monde le faisait, qu'il lui ne voulait pas, qu'il préférait crever, et nous crever avec. La pluie a redoublé. Ils se sont tus. Et puis, au bout d'un long silence, elle a demandé. Et les chats? Là, j'ai tressailli. Je pensais qu'ils ne savaient pas. Ces sept petits chats de la Minette étaient nés la veille, et j'étais là, moi, quand ils ont sorti du ventre de leur mère. Je l'avais vue, la Minette, se coucher au fond du placard, miauler trois fois de douleur et pousser, et griffer la paille. Ils étaient nés sous mes yeux, les sept. Elle les avait léchés longuement, elle les avait séchés, elle avait travaillé jusqu'à ce que tout soit propre, sec et chaud, puis elle s'était couchée en miaulant une dernière fois. Et je lui avais dit, bravo, Minette. Et maintenant, la mère demandait, et les chats? Et le père répondait, je les tuerai tous les sept demain matin. Alors la rage m'est venue au cœur. Elle s'est coulée dans mon corps tout entier, dans mes mains, mes épaules. Je n'étais plus que cela, un bloc de rage. Je suis remontée. J'ai tiré Fabien par la manche de son pullover. Il faut partir, Fabien, vite tous, avant le matin. Et comme il voulait en savoir plus, je lui ai dit que les parents voulaient nous faire du mal. On a réveillé nos frères, on s'est habillé le plus chaudement possible et on est parti dans la nuit. En quelques secondes, on était trempés, glacés et perdus. Je marchais devant, Fabien et Rémi me suivaient de près. Nos autres frères venaient derrière, se tenant par la main, les deux petits pleurnichaient. Quand les gendarmes ont ouvert la porte du garage, je me suis glissée dehors et j'ai attendu que les ambulances arrivent. Je me suis cachée dans la première, sous le siège passager, et je n'ai plus bougé. Un peu plus tard, tandis qu'elle roulait vers Bordeaux, j'ai vu la main de Rémi qui pendait de la couchette. J'ai tendu le bras et je l'ai gratté de l'ongle. Il a rampé un peu pour me voir, ses yeux se sont écarquillés. J'ai à peine eu le temps de porter l'index à mes lèvres pour le faire taire. Rémi, écoute-moi, je dois te dire quelque chose de grave. Les parents ne voulaient pas nous tuer, ils voulaient simplement tuer les chats, et moi, je ne voulais pas. Tu comprends? Tu le diras aux autres, hein? Il a fait signe que oui. On s'est tenu la main jusqu'à Bordeaux. Je l'ai seulement lâché quand l'ambulance s'est arrêtée à l'hôpital. Tu le diras aux autres, hein? J'ai attendu que tout le monde soit parti pour sortir de ma cachette. J'ai suivi des couloirs vides, j'ai poussé des portes. Et je suis arrivée dans la rue. La ville de Bordeaux était déserte et froide. J'ai jeté sur mes épaules une couverture que j'avais prise dans l'ambulance, une couverture marron qui m'a servi de cape. Récit de Jean Martinière, 60 ans, officier pont. Un petit enfant assis en tailleur sur le pont, avec une couverture marron sur les épaules. On avait quitté, au matin, le port autonome de Bordeaux, avec du grain dans la cale. Parce que je transporte des marchandises dans mon cargo et pas des passagers. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je lui ai demandé. Mais il ne s'est pas démonté, l'enfant. Il m'a regardé par-dessus son épaule et m'a fait le plus joli sourire qu'on puisse imaginer. Le genre de sourire qui vous coupe la colère, je vous assure. Moi qui suis grand-père, un gosse comme ça, il me prend par le bout du nez, il m'emmène où il veut. T'as perdu ta langue? Où tu comptes aller comme ça? Où étais-tu caché? Pas de réponse, et toujours ce sourire. C'était très étrange. L'idée m'est venue que cet enfant n'était pas réel, qu'il sortait tout droit d'un conte, que j'avais le droit d'y entrer pour un instant, qu'il voulait bien m'y accepter, à condition bien sûr que je cesse de poser des questions idiotes. Je me suis assis à côté de lui, avec mille précautions, de peur de briser l'enchantement. Il faisait incroyablement doux pour une matinée de mi-novembre. Au-dessus de nos têtes, le ciel était immense. Le bateau filait à bonne allure. Il filait plein ouest. Fin de l'histoire. Merci pour votre écoute. Au revoir.